Alors nous ne pouvons pas faire l'expérience de la mort tant que nous sommes en vie. Mais nous faisons l'expérience de la perte. Quand quelqu'un disparaît, c'est une relation qui s'arrête, un amour qui ne peut plus se partager, une conversation qui perd son fil. Et pourtant, quand nous perdons quelqu'un de cher, eh bien, il y a tellement de vie qui ressurgit. Tous les souvenirs reviennent, des souvenirs tellement vivants qu'on a l'impression que la personne est là. Et la tristesse vient du détachement nécessaire, de la séparation. Et on sait maintenant que ce temps est long. C'est important de prendre ce temps long. Et c'est dans cette traversée de la tristesse que la consolation est promise par Dieu. Vous avez entendu les textes que j'ai choisis ? Il y a cette consolation qui arrive à chaque fois. Alors moi, personnellement, quand je pense au mot consolation, j'ai l'image d'une mère qui prend son enfant dans ses bras pour le consoler, ou bien l'image de personnes qui se prennent dans les bras mutuellement. C'est vrai que le contact physique peut être bénéfique parce que bien souvent, il n'y a pas de mots. Et pourtant, dans la Bible, la consolation prend la forme d'une parole. Et la parole, en fait, c'est le seul pont entre Dieu et nous. C'est un message porteur de sens. Cette parole, on l'entend dans le prophète Ésaïe, quand le prophète dit de la part de Dieu, « Consolez, consolez mon peuple ». Dans Ésaïe, il y a plusieurs passages, et en fait, ce passage ouvre une nouvelle étape, le chapitre 40, et on appelle cela aussi le livre de la consolation. Ça arrive, en fait, à un moment où le peuple vit des grosses épreuves parce qu'il est déporté à Babylone, il est arraché de chez lui, de sa terre, de son temple, et il est obligé de vivre en terrain étranger. Ça se passe à peu près dans les années 580 avant Jésus-Christ. Et il y a d'autres endroits où la consolation arrive dans l'Ancien Testament. Et le mot hébreu, Naram, peut être aussi traduit par réconforter. Dans certaines traductions dans les Bibles, on peut trouver réconfort. Et c'est la même chose pour le mot grec. En grec, le mot consoler, la consolation, c'est parakleseos, qui a donné le paraclet, qui est un mot que l'évangile de Jean utilise pour parler du Saint-Esprit. C'est une des fonctions du Saint-Esprit, de consoler. Et on peut aussi traduire ce mot par encourager ou réconforter. On a entendu les béatitudes et la tristesse des gens qui sont nommés là, c'est une tristesse de deuil, précisément. Et ils seront consolés. Et dans la lettre de Paul aux Corinthiens, eh bien, vous avez entendu, le contexte est différent. Le contexte, eh bien, c'est aussi un contexte d'épreuve, un peu comme dans Ésaïe. Et la consolation arrive dans ce contexte de persécution. Et l'apôtre Paul, eh bien, quand il commence sa lettre, il commence par bénir Dieu. Il tourne son regard vers Dieu et il bénit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses. Alors, vous n'avez peut-être pas compté, mais là, moi, je suis là pour ça. Le mot grec, donc de parakleos, il est cité 10 fois en 9 versets. C'est dire que le message principal de Paul, c'est vraiment d'insister sur la consolation. Le mot détresse apparaît 3 fois et le mot souffrance 2 fois. Donc c'est vraiment une consolation, un réconfort, un encouragement. En fait, les 3 mots en français, ils sont un petit peu différents. Pour moi, la consolation, c'est d'abord voilà, prendre dans ses bras. Ensuite, le réconfort, c'est peut-être dire à l'autre, ben, ne t'inquiète pas, je suis là. Et puis l'encouragement, ce serait de dire, ben, vas-y, tu peux te relever. C'est comme s'il y avait une progression. Et je me suis posé la question, pour nous-mêmes, donc la consolation n'arrive pas forcément quand on a perdu quelqu'un, quand on est en deuil, mais du coup, pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça pourrait être? De quoi nous aurions besoin d'être consolés aujourd'hui? Alors ça peut être un deuil, mais ça peut être aussi des situations de vie qui me font souffrir, dans mes relations notamment. Est-ce que j'ai besoin d'être consolée des limites de mon corps, qui ne répond plus comme je voudrais? Est-ce que j'ai besoin d'être consolée de la violence du monde? Ou bien, est-ce que j'ai besoin d'être consolée des épreuves que je traverse? De quelle détresse ai-je besoin d'être consolée? Il nous console dans toutes nos détresses. Et en fait, ce que dit Paul, c'est au présent qu'il le dit. C'est maintenant que Dieu nous console. Alors ce maintenant, il était valable pour Paul, mais il est valable pour nous aujourd'hui, qui le disons aujourd'hui. Je pense, avec tous ces mots de consolation, que l'apôtre a expérimenté lui-même dans son être la douleur de l'épreuve. Il a expérimenté la détresse, même le désespoir, quand il dit « Le péril que nous avons couru en Asie nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. » En fait, l'apôtre n'a pas honte de dire que c'est dur, en fait, cette vie. C'est vrai qu'on est à une époque où on a envie de cacher la dureté de la vie, on a envie de se montrer fort et toujours à la hauteur de tout. Et peut-être que les progrès scientifiques et technologiques essayent de pallier à certaines déficiences humaines, mais en fait, le cœur de l'humain n'a pas changé. Aucune machine n'offre de solution à notre fragilité, aux guerres, aux persécutions, à la violence humaine. Aucune machine ne peut empêcher de sombrer dans le désespoir. Aucune machine ne peut se mettre à l'écoute de la souffrance de quelqu'un pour l'aider à voir une autre facette de la vie. Nous avons tous besoin les uns des autres. Nous sommes irremplaçables. Une machine ne pourra jamais nous remplacer. Dieu nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse, dit l'apôtre Paul. Et il ajoute encore, par la consolation que nous-mêmes nous recevons de Dieu. En fait, la consolation, elle entoure, devant et derrière. Et j'entends que Paul dit, finalement, il n'y a pas de détresse aussi grave que Dieu ne puisse pas la consoler. Elle ne peut pas, tout ce qu'on vit, ne peut pas empêcher la consolation de Dieu de nous toucher. Alors notre Dieu se fait tendresse pour nous consoler. Peut-être que c'est une image plus féminine de Dieu qu'on peut trouver là. Il est tendresse. Il y a souvent des passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent de Dieu, qui peut nous prendre dans ses bras comme un nourrisson. C'est ça son amour, c'est sa forme d'amour à Dieu. Il nous aime avec tendresse. Et donc, eh bien, si moi je peux me sentir consolée, je peux aussi consoler l'autre. Mais ça prend du temps et parfois, ça n'est pas facile de se laisser consoler parce que rester dans la tristesse, c'est une façon de garder le lien avec la personne qui est partie sans arriver à réinvestir la vie des vivants. Et dans la Genèse, on trouve ce phénomène aussi dans l'histoire de Jacob. Jacob, c'est un des patriarches. En fait, il refuse d'être consolé pour rester en lien avec son fils Joseph, dont les frères disent qu'il est mort dans le désert. Alors, c'est important d'être doux avec soi-même dans cette période de deuil. C'est important d'accepter ce temps long et de se refocaliser sur la confiance qu'en effet, quelque chose de bien plus grand est promis. La venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection ont apporté une espérance qui dépasse tout ce qu'on connaît de notre vie terrestre. Ça nous permet d'être en confiance avec le fait que la personne qui est partie, eh bien, elle est dans cette lumière de Dieu. Elle est dans ce lieu sans souffrance et plein d'amour. Et l'apôtre nous dit, de même en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même par le Christ abonde aussi notre consolation. Le Christ console, et en fait il est venu vivre ce lien humain sur la terre. Il est venu tisser des liens. Alors il y a des liens, c'était pas des amis franchement, hein, les pharisiens et tout ça, c'était pas des amis, mais il a eu des amis. Il a eu les trois frères et sœurs, Marie, Marthe et Lazare. Et quand Lazare est mort, eh bien, Il a expérimenté la perte aussi. Il a pleuré. Et si Dieu lui a donné de ressusciter Lazare, eh bien c'est pour nous dire à nous que la mort ne sera pas la fin de tout. C'est peut-être en prémisse de ce que Jésus allait vivre dans cette résurrection. Oui, Jésus a accepté d'aller au bout de la souffrance et de la mort. Il a accepté de faire confiance à Dieu au-delà de toute raison humaine. Et il nous rejoint dans notre désarroi devant la mort. La résurrection de Jésus vient nous parler de l'amour de Dieu qui console, mais elle parle de notre résurrection aussi et de la résurrection de nos proches. Alors, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, cette consolation, parce que parfois, nous avons des sentiments ambivalents, nous pouvons en vouloir à l'autre d'être parti. Mais il y a cette espérance que l'apôtre rappelle. En Dieu, nous avons mis notre espérance. Au bout du chemin, il y a l'espérance, il y a la lumière, il y a cet amour qui nous relève. Et puis, si Dieu nous relève, eh bien, c'est aussi pour une raison, c'est qu'il a besoin de nous, il a besoin de chacun et de chacune de nous. Et voir quelqu'un se relever de ses épreuves est un encouragement pour beaucoup. Alors, je termine en disant que je me suis laissée inspirer aussi par ce va-et-vient dans le texte que Paul fait entre lui et ses interlocuteurs. Écoutons un peu, que Paul partage sa souffrance et les autres partagent sa consolation. Les Corinthiens prient pour lui et il a reçu la grâce. Paul reçoit la consolation et cette consolation ira aussi aux Corinthiens dans leur persécution. Alors oui, se tourner vers Dieu, c'est faire confiance que Dieu nous enverra des personnes, des signes, pour nous consoler. Et peut-être que ces personnes et ces signes renforceront notre foi et nous permettront de dire à notre tour, « Béni soit Dieu, le Dieu de toute consolation. Amen. »